Chapitre 39. Harlène sur les talons, Dale monta l'escalier du rez-de-chaussée et s'arrêta sur le palier pour éclairer autour de lui. Du liquide sombre coulait toujours sur le long des marches, et des traînées de la substance cireuse aperçue au sous-sol s'accumulaient au pied des murs et de la rampe. Les deux garçons restèrent au centre des marches, armes en position de tir. Il y avait autrefois une porte à deux battants en haut de l'escalier, mais elle était complètement arrachée de ses gonds. Dale s'arrêta, examina l'épais liquide noirâtre s'infiltrant sous le bois fendu, puis se pencha et éclaira le grand hall d'entrée d'Old Central. La lumière se refléta sur une forêt de piliers et de murs ruisselants de cette espèce de chitine. Il ne se souvenait pas de ces paliers. Harlène murmura quelque chose et Dale se retourna.
« Quoi ?»« J'ai dit, » articula Harlène, « qu'il y a quelque chose qui bouge en bas. C'est peut-être Mike. Ça m'étonnerait. Écoute !»
Il entendit des grincements, des raclements, des frottements, comme si un gros engin mou s'avançait en poussant devant lui les vieux pupitres, les tableaux cassés et autres détritus.
« Continuons !»
Il sentit qu'Harlène le suivait, mais il ne se retourna pas. Il était bien trop occupé à contempler le spectacle. L'intérieur d'Old Central ne ressemblait en rien à l'établissement qu'ils avaient quitté quelques semaines plus tôt. Le sol était couvert d'une épaisse couche de cette mélasse dans laquelle ils s'enfonçaient jusqu'aux chevilles. Les murs étaient tapissés d'une mince pellicule d'un matériau rosâtre, un peu nacré, qui rappelait à Dale la peau nue et tremblotante d'une portée de rat nouveau-né. Cette substance, qui paraissait vivante, coulait des rampes, pendait en de gigantesques toiles d'araignée des portraits de George Washington et Abraham Lincoln, ruisselait en écheveaux des patères et du vestiaire, s'accrochait aux poignées des portes, dégoulinait en énormes encadrements de chair palpitante des fenêtres murées et s'élevait vers la mezzanine et les escaliers en un amas de mèches et de ruisselets semblables à du fromage fondu. Au-dessus d'eux, le cauchemar devenait monstrueux. Dale, voyant le faisceau de la lampe d'Harlène rejoindre le sien, leva la tête. Les balcons du premier et deuxième étage étaient presque entièrement recouverts de filaments gris et roses. À mesure qu'ils s'élevaient, ils devenaient plus épais, brisant l'espace noir de voûtes et de croisées d'ogives, comme les arcs-boutants de couleur chair d'une cathédrale dessinée par un démon. Des stalactites et des stalagmites de résine grisâtre envahissaient les moindres recoins, coulant des lustres éteints, montant des balustrades et des rampes, suspendues en travers du puits central comme des cordes à linge de chair et de tissu cartilagineux où était accrochée une immonde lessive. Des rangées de ce qui ressemblait à des sacs à œufs palpitants. Le faisceau lumineux s'arrêta sur l'un d'eux et Dale discerna à l'intérieur une vingtaine de silhouettes mouvantes. Le sac tout entier battait comme un grand cœur enfilé sur un fil sanglant. Il y en avait des douzaines. D'autres ombres bougeaient sur la mezzanine et du liquide suintait du grand vitrail, mais Dale, les yeux fixés sur le clocher, ne voyait rien d'autre. Au-dessus du palier du deuxième étage, celui de l'école secondaire, condamné depuis de nombreuses années, on avait arraché les larges lattes formant le plancher du clocher, et c'était de là que provenait la lueur. Non, pas exactement une lueur, pensa Dale en regardant bouche bée cette pulsation luminescente. Le simulacre de lumière projeté par les minces filaments de chair remplissait le clocher et enveloppait quelque chose qui rougeoyait au milieu et qu'il n'aurait pu décrire. Une araignée, peut-être. On y devinait un grand nombre de pattes et d'yeux ou un germe. Il avait vu à la ferme d'oncle Henri l'œil rouge et le cœur à demi formé d'un poussin dans un œuf fertilisé. Ou un visage, ou encore un cœur géant. Mais même 15 mètres en dessous, Dale savait que ce qu'il regardait avec un sentiment grandissant d'impuissance et de désespoir n'était rien de tout cela. Harlène lui tira le bras et à contre-cœur, Dale détourna les yeux. Le rez-de-chaussée, loin de la répugnante lueur du clocher, était très sombre, un labyrinthe peuplé d'ombres. L'une de celles-ci bougea et sortit des vestiaires des petits du cours préparatoire qui n'était plus qu'un tunnel frangé de toiles d'araignées de chair. Les bras tremblants, Dale épaula son fusil et visa le pâle visage flottant sur une ombre de corps. Monsieur Roon s'arrêta à 3 mètres d'eux. Son complet noir se fondait dans l'obscurité. Son visage et ses mains miroitaient dans le faisceau de la torche d'Arlène. Il y avait des bruits derrière lui et d'autres encore plus sourds au sous-sol. Le directeur affichait le plus large sourire que les enfants lui aient jamais vu.
« Bienvenue, » dit-il en clignant des yeux comme un hibou. « Jetez un coup d'œil là-haut, voulez-vous ?»
Répugnant à quitter Rhône des yeux, Dale regarda une fraction de seconde dans la direction indiquée, mais ce qu'il aperçut lui fit oublier le directeur, et il abaissa son fusil afin de mieux diriger le faisceau de sa lampe. Lawrence était là-haut. Mike devait reconnaître que son expédition dans le tunnel n'était pas une de ses plus brillantes manœuvres. Ses mains et ses genoux saignaient abondamment, son dos lui faisait mal, il était perdu et avait l'impression d'être là-dessous depuis des heures. Il avait fait faux bond à ses copains, les lamproies allaient revenir, il n'avait presque plus de munitions, la pile de sa torche commençait à faiblir et il venait de se découvrir claustrophobe.
À part ça, tout va bien.
Il y avait tellement d'intersections et de tournants dans ce tunnel qu'il ne pouvait pas ne pas s'être perdu. Au début, il n'avait pas eu de mal à reconnaître le tunnel principal. La terre y était plus tassée et exhalait encore l'odeur de la lamproie, mais maintenant, il en était de même pour tous les tunnels. Le dernier quart d'heure, il avait dû choisir une direction une douzaine de fois et il était certain de s'être trompé quelque part. Il avait sans doute dépassé le silo brûlé maintenant. Il allait donc sûrement plein nord.
Foutu saloperie!
Honteux, il ajouta un petit acte de contrition à son chapelet de « Je vous salue Marie » et de « Notre Père ». L'espèce de lamproie avait failli l'avoir deux fois. La première, il ne l'avait pas entendu approcher et s'était tortillé dans les trois boyaux pour arriver à diriger dans la bonne direction le faisceau de sa lampe et le fusil de Memo. En tirant son premier coup de feu, il avait vu les filaments entourant la gueule de la créature onduler vers lui comme des algues blanches et charnues. À son second coup de feu, la lamproie s'était enterrée dans le sol. Il lui avait pourtant tiré dessus une troisième fois, dans le dos, ce qui avait été à peu près aussi efficace qu'une poignée de gravier contre du blindage. Une minute plus tard, la bestiole, ou sa sœur jumelle, avait surgi du plafond du tunnel à un mètre de son visage. Il avait jeté le pistolet à eau dans la gueule palpitante et vu clairement, lorsqu'elle s'était tournée vers lui, le gosier bardé de dents. Il avait tiré, rechargé, et la créature avait disparu. Pris de panique, il avait continué d'avancer en surveillant le plafond et le sol du tunnel sous ses mains et en s'attendant à voir émerger d'un instant à l'autre une gueule qui l'emporterait. Elle réapparut effectivement quelques mètres devant lui, mais se réenterra aussitôt. Elle semblait épouvantée par quelque chose à la surface du sol et le tunnel empestait les sens. Pendant une fraction de seconde, Mike s'arrêta net, bouleversé par ce que cela signifiait.
« Seigneur, ça ne peut être que la citerne de Kev. Si seulement j'avais un des Tokiwoki. Mais est-ce qu'il fonctionnerait sous terre ?»
Duane ou Kevin auraient pu lui donner la réponse, mais Duane était mort et il n'était pas impossible que Kevin ait subi le même sort. Mike continua sa reptation. Son corps était devenu un simple organe chargé de transmettre à son cerveau des signaux de douleur. Il faisait frais là-dessous. Il aurait été si bon de se rouler en boule et de s'endormir en laissant sa dernière pile s'user, son dernier rayon de lumière s'éteindre, de sombrer dans un sommeil sans rêve. Toutefois, il persévéra, le fusil à écureuil chargé mais enfoncé dans sa ceinture le long de sa jambe droite. Ses mains laissaient de larges empreintes sanglantes sur le sol dur et ondulé. Soudain, il entendit derrière lui un vacarme plus fort que lors des précédentes charges de la lamproie. On aurait dit qu'il y en avait deux et qu'elle déboulait à toute vitesse si l'on en jugeait par l'augmentation des trépidations et du bruit. Il accéléra, la torche entre les dents, son crâne heurtant le plafond du tunnel. Les chocs et les frottements derrière lui étaient très violents et il pouvait sentir l'infâme odeur de la créature, une odeur de détritus avariés et de cadavres en décomposition, et une autre odeur aussi, pénétrante et âcre. Il lança un coup d'œil derrière et aperçut dans le tournant une vive lumière. En se projetant en avant, il perdit sans le remarquer un des pistolets à eau. La torche s'éteignit et il la jeta. Le tunnel plus large maintenant était illuminé par le passage de la lamproie. Quelque chose de gros, de bruyant, remplissait le tunnel derrière lui. il en sentait la chaleur brûlante. Le sol s'effondra sous lui et Mike dégringola, glissa, essaya de s'accrocher à des cailloux et des pierres. Il se trouvait dans une sorte de grotte, aussi sombre que le tunnel, mais bien plus large. Il sortit à tâtons le fusil à écureuil et releva le chien tout en essayant de freiner sa descente avec les jambes. Il finit par s'arrêter contre une paroi verticale. La lumière venue du tunnel devint éblouissante. La terre trembla et la lamproie apparut soudain, gueule et tentacules palpitant frénétiquement. Son corps rougeoyant passa à toute allure devant Mike, comme un train de marchandises grillant une petite gare à 50 cm des pieds du jeune garçon qui essayait en vain de s'enfoncer dans la muraille. La créature fonçait droit devant elle, et elle disparut dans les ténèbres en laissant derrière elle une traînée d'humeur visqueuse et de chair brûlée, avant que Mike ne remarque deux éléments nouveaux. 1. Il ne se trouvait plus dans le tunnel, cette caverne était en fait l'ex-lavabo des Garcons. 2. La lamproie était en feu. Kevin et Cordy prirent la fuite chacun dans une direction différente en dérapant sur la paroi lisse de la citerne. Les lamproies chargèrent au milieu, là où s'étaient tenus les enfants. Puis elles redescendirent sur le sol en grinçant des dents contre le métal. Une des créatures frôla le tuyau en passant et le sortit de la bouche de la cuve. De l'essence se mit bientôt à couler sur la pente herbeuse. « Merde !» Kevin alla jeter un coup d'œil dans la citerne. Elle était plus qu'à moitié pleine, mais ce n'était pas suffisant. Les lamproies tournaient autour d'eux dans le sol meuble de la pelouse, leur épine dorsale rose et grise cambrée comme celle du monstre du Loch Ness. Kevin entendit claquer une porte et se demanda si ce n'était pas son père ou sa mère de l'autre côté de la maison. Il espérait que non. Deux pas en direction de la pelouse leur feraient découvrir les lamproies et quatre, le camion arrêté dans l'allée.
« Reste là !»
cria-t-il en se laissant glisser le long de la paroi de la citerne. Il prit son élan sur le rebord métallique au-dessus du pare-choc arrière gauche pour sauter le plus loin possible. Il atterrit sur les mains tout près de l'extrémité du tuyau qui maintenant n'aspirait plus que de l'air et s'approcha de l'ouverture de la cuve.
« Attention !»
Il tourna la tête et vit les deux lamproies se précipiter vers lui, fonçant à la vitesse d'un homme en pleine course. Il se jeta derrière le camion en balayant instinctivement le sol de son tuyau. Mais le mouvement de sa main droite sur la commande de remplissage fut délibéré. La première lamproie était à 2 mètres de ses pieds lorsque le tuyau se mit à cracher au lieu d'aspirer et l'essence jaillit de la citerne dans la gueule grande ouverte de la lamproie. Elle plongea vers le gravier. Kevin lui arrosa le dos à mesure qu'elle s'enfouissait dans le sol et imbiba généreusement le trou. La seconde avait obliqué vers la droite en décrivant un cercle et elle arrivait droit sur lui. Cordy poussa un cri et le garçon envoya à 5 mètres un puissant jet d'essence qui aspergea toute la partie antérieure de la créature. Une forte odeur d'essence l'avertit du retour de la première derrière lui. Il bondit sur le pare-choc arrière et le monstre s'en prit au pneu gauche. Il l'arrosa abondamment ainsi que le trou où elle disparut. Entouré de vapeurs d'essence, Kevin se hissa jusqu'aux commandes de remplissage, tendit le bras pour les inverser de nouveau et prit le risque de courir jusqu'à l'ouverture de la cuve pour y remettre le tuyau. L'essence recommença à couler dans la citerne.
« Plus que 3 ou 4 minutes, peut-être moins. »
Il s'élança d'un bond en espérant atterrir sur le camion. Il y avait plus d'1,50 m et il savait bien que c'était trop loin. Mais il voyait sous le véhicule la bosse formée par le dos de la lamproie. Ses pieds effleurèrent le métal, glissèrent, il se cogna douloureusement le genou et essaya en vain de s'accrocher à la citerne. Dans un instant, il allait retomber en arrière, juste sous le nez de la monstruosité qui le chargeait. Accroché d'une main à la vanne, Cordy se pencha et lui saisit le poignet. Le poids du garçon faillit la faire tomber elle aussi.
« Allons, Grumbatcher, grimpe, bon Dieu »
grommela-t-elle. Kevin appuya les genoux contre l'acier lisse, trouva une prise sur le pneu attaqué par la lamproie et grimpa juste comme le monstre surgissait près de la roue. Essoufflé, la respiration rauque, il s'affala sur la citerne. Si elles se levaient sur leur queue et visaient haut, les lamproies ne les manqueraient pas. Pendant quelques instants, il fut trop épuisé et trop secoué pour bouger.
« Elles sont imprégnées d'essence » haleta-t-il enfin. « Il ne reste plus qu'à allumer !»
Cordy, assise en tailleur, regardait les créatures décrire des cercles autour d'eux.
« Génial ! Tu as du feu ?»
Kevin tapota ses poches à la recherche du briquet de son père. «
Toujours accroché à la vanne, il s'affaissa sur lui-même.
« Dans mon sac !»
répondit-il en montrant le sac de marin soigneusement posé sur la pompe à essence, à 3 mètres d'eux. Le faisceau de la lampe de poche d'Arlène rejoignit celui de la torche de Dale. À 15 mètres au-dessus d'eux, perché sur la balustrade du second étage, Lawrence était assis sur une chaise de bois dont 2 pieds se balançaient au-dessus du vide. Le petit garçon semblait attaché à son siège, mais les liens étaient d'épais écheveaux de ses filaments semblables à des tendons arrachés. Un écheveau passé derrière sa tête lui servait de bâillon et un autre, plus gros, formait un nœud coulant autour de son cou et montait dans le clocher, dans le sac à œufs palpitant là-haut. La chaise vacillait sur la rampe drapée de filaments. Quelqu'un se tenait derrière le siège, des bras blancs la maintenaient, pas trop solidement, semblait-il.
« Posez vos armes !»
ordonna M. Rune d'une voix aussi impérative qu'un claquement de fouet.
« Tout de suite !»«
Vous allez nous tuer !»
articula Dale, les lèvres soudain glacées. Il s'obligea à descendre le faisceau de sa lampe sur le directeur. Derrière lui, dans les vestiaires du cours préparatoire, remuaient d'autres silhouettes de la taille d'un homme. M. Rune sourit.
« Peut-être !» « Mais si vous ne posez pas vos armes à l'instant même, nous le pendons immédiatement. Le maître appréciera une offrande de plus. »
Dale jeta un autre coup d'œil au-dessus de lui. Le palier du second étage paraissait à des kilomètres. Lawrence, les yeux écarquillés, se tortillait désespérément, essayant sans doute de se libérer. Son grand frère lui cria de ne pas bouger.
« N'obéis pas !»
chuchota Arlène en levant son calibre 38 vers le visage de Rune.
« Descends, ce fils de pute !»
Le cœur de Dale battait si fort dans ses oreilles qu'il entendait à peine son ami.
« Il le tuera sinon, c'est sûr !»«
C'est nous qu'il va tuer !»
siffla Arlène.
« Non !»
Mais Dale avait déjà posé le savage sur le sol. Rune s'approcha presque à portée de main.
« Ton arme, toi aussi »
aboya-t-il.
« Tout de suite !»
Arlène se figea, jura, leva les yeux vers Lawrence et posa son pistolet sur le sol gluant.
« Les jouets aussi !»
ordonna-t-il en montrant d'un geste impatient les pistolets à eau à leur ceinture. Dale commença à retirer l'arme en plastique et à la dernière minute dirigea le canon vers Rune. Un long jet d'eau atteignit le directeur en pleine figure. Celui-ci secoua lentement la tête, sortit un mouchoir de la poche de son veston, se sécha le visage et retira calmement ses lunettes pour les essuyer.
« Nikova, le maître a passé 1000 ans au centre de ses croyances. Il a gardé d'anciennes habitudes. Mais nous, on ne vient pas tous du pays du papisme. »
Il remit ses lunettes.
« Tu n'y crois pas non plus à cette eau miraculeusement transformée, hein ?»
Il sourit et, sans préavis, gifla violemment Dale au visage. La bague à son doigt fit une profonde estafilade sur la joue et la mâchoire du garçon. Arlène esquissa un geste pour récupérer son arme, mais l'homme en complet noir fut plus rapide et le frappa au visage avec une telle force que la cage d'escalier renvoya l'écho du coup. Arlène tomba sur les genoux et Rune ramassa le pistolet. Dale essuya le sang sur sa joue et aperçut le soldat glissant dans la pénombre sous le vitrail. Une autre silhouette, plus grande, plus sombre, se déplaçait sur la mezzanine de la bibliothèque. À travers les murs épais et les fenêtres condamnées, le grondement du tonnerre était juste perceptible. Monsieur Rune appuya sa large main sur le visage de Dale, le pouce et l'index enfoncés dans ses joues, juste sous ses yeux.
« Pose ton espèce de radio. » Doucement. Bien.
Il empoigna la nuque du garçon et le poussa en avant, l'obligeant à enjamber le fusil, le pistolet à eau et le talkie-walkie à demi enfoncé dont l'épais sirop recouvrant le sol. Il tira Arlène de l'autre main, écrasa le pistolet à eau et envoya d'un coup de pied le talkie-walkie vers le sous-sol. Trébuchant, la nuque serrée comme dans un étau, les deux enfants furent traînés jusqu'au premier étage.